théâtre d'Edmond Morel.
Véronique Sels, vous publiez La Tentation du Pont aux éditions Genèse. Alors ma première question porte sur la maison d'édition Genèse. C'est une nouvelle maison d'édition?
Maison d'édition qui a débuté il y a environ un an. Ouais. Pour l'instant, il y a quelques auteurs, dont un auteur belge, Jeuze de Pau, qui a déjà publié un livre dans cette maison d'édition. C'est une femme, Danielle Ness, qui est ex-Flammarion, qui a lancé cette maison d'édition, une femme formidable et qui cherche des auteurs un peu atypiques, Mathilde. Voilà.
Alors comment ça se passe le cheminement du manuscrit? C'est votre premier roman?
C'est mon premier roman, je dirais, publié, parce que j'en ai déjà écrit d'autres, mais c'est le premier que j'ai soumis à des maisons d'édition. Et avant ça, je n'avais pas vraiment osé le faire, et c'est des gens autour de moi qui m'ont poussé à le faire.
Bien. Alors, l'histoire de ce roman, La Tentation du Pont, est une histoire qui est atypique, qui est non seulement atypique par l'histoire qu'elle raconte, par les personnages qu'elle invente, mais aussi par la langue un peu particulière, le style que vous imprimez à l'histoire de cette petite fille. Hein, c'est le début du roman, elle est fille. Alors, dites-nous en deux mots, cette petite fille graphomane au début, les deux premiers chapitres, elle découvre qu'elle écrit dans une langue qui n'est connue de personne, même pas d'elle-même.
Oui, voilà. C'est un petit peu une métaphore. C'est une petite fille qui, effectivement, se met à remplir, à noircir tout ce qu'elle trouve, les murs, du papier quand on lui en donne, d'un langage, on dirait, inconnu, secret, qu'elle ne comprend pas elle-même. La métaphore de tout un chacun. On a soi-même son propre langage quand on arrive au monde et tout tend à nous formater, à nous apprendre un langage codé, partagé par tout le monde. Et elle, un peu moins que d'autres, arrive à admettre et à gérer ça. Elle a envie, elle, de faire prévaloir son propre langage plutôt que d'accepter et d'avaler tout cuit ce qu'on lui propose.
Elle refuse de l'accepter, ce qu'on lui donne tout cuit, à tel point qu'elle quitte l'école à un moment donné, petite crevette de 6 ans, voilà. Avant d'apprendre la lettre Y de tout l'alphabet qu'elle apprenait. Voilà. Et là, elle se retrouve... Alors là, c'est une scène qui est presque digne de Fellini, où elle se retrouve dans une boîte à chaussures d'un clochard. Alors, l'imaginaire travaille comment pour décrire une scène comme celle de cette rencontre-là?
Eh bien, je n'en sais rien. Il faut demander à mon imaginaire. Moi, je ne suis responsable de rien. En fait, c'est une fugue d'enfant. C'est-à-dire que c'est une fugue d'enfant dans un monde... si on la prend comme une métaphore, ça a quelque chose de magique. Si on la prend littéralement, c'est une catastrophe. Donc ici, nous sommes quand même dans un conte réel fantastique, un conte pour adultes où elle va aller regarder ailleurs et rencontrer des gens complètement inattendus. C'est l'autre monde, celui qui l'interroge, celui où elle va peut-être découvrir son propre langage. Donc c'est un monde un petit peu métaphorique, même si ce monde se trouve sous un pont et qu'elle va rencontrer en fait un vieux clochard qui est d'origine cubaine.
Et qui a un nom à particules et qui n'en finit plus, et qui adopte cette petite fille et qui vit avec elle pendant 2 ou 3 mois avant de la renvoyer chez ses parents au moment où lui meurt.
Voilà, exactement. Il va lui apprendre beaucoup de choses. Il va lui apprendre un petit peu comment fonctionne la rue, comment se protéger, comment croire en son langage propre en fait, mais il va quand même lui dire que c'est très important qu'elle rentre chez elle parce que elle doit encore grandir avant de pouvoir complètement utiliser son propre langage. Donc elle va retourner chez elle, chez ses parents, et va suivre le cursus du lycée, ce qui lui vaudra évidemment quand même une certaine connaissance, une certaine culture, ce qui fait que le jour où elle va repartir à nouveau dans la rue en étant pratiquement majeure, elle ne sera pas complètement démunie ni de connaissances. Elle va jongler très très bien avec tout, la philosophie, avec les idées. Elle ne sera pas complètement démunie mentalement face au monde auquel elle s'expose. Et là, elle va rencontrer d'autres gens. Elle va se sentir tout d'un coup investie d'une espèce de mission. Et elle va aller à la rencontre de destins assez différents les uns des autres, des gens d'origine totalement différente, avec des fêlures, des gens un peu vulnérables qui ont vécu des choses difficiles, et elle va les faire se rencontrer. Elle va reconstituer une famille avec eux, une espèce de famille improbable, de branque, de dingo. Et l'un d'eux est un taximène déjà assez âgé, qui est d'origine africaine et qui rêve de sauver son village qu'il a laissé des années auparavant derrière lui. Il y a un jeune hongrois qui travaille à la municipalité, qui lui a des petits problèmes avec l'alcool et qui fantasme beaucoup sur le passé de la Hongrie, le passé glorieux de la Hongrie. Il y a aussi une femme qui s'appelle Simone, qui est jeune aussi, qui a 22-23 ans, qui elle a pris quelques coups et qui est assez abîmée à cause de ça. Et puis Chang, un jeune chinois qui travaille dans un salon de coiffure, qui est clandestin et qui n'est pas que coiffeur. Il a grandi dans un monastère en Chine et il connaît bien le kung-fu. Voilà, c'est des personnages complètement différents. Ce n'est pas United Colors of Benetton, c'est simplement des têtes facettes de l'humain.
C'est ça, ce sont des tas de facettes de l'humain, mais aussi des destins où chacun vit finalement une double vie, la vie qu'il rêve, comme ce Hongrois qui se rêve d'être descendant d'une grande famille, ou comme ce taximène africain qui rêve de sauver son peuple, et d'un autre côté, la vie réelle à laquelle ils sont confrontés. Et vous avez l'art de passer de l'une à l'autre à travers le personnage de Perséphone, qui est une sorte de lien, de fil rouge entre tous ces personnages.
Oui, c'est pas seulement le fil rouge, c'est celle qui les a un petit peu de façon malicieuse réunis, un peu comme on mettrait du sel, du poivre et du curry ensemble pour voir ce que ça va donner. Et en fait, qui laisse un peu les choses se faire, mais qui a confiance. En fait, la grande différence entre elle et le Kidam, c'est que elle sent que elle n'a peur de rien. Elle sent que tout est possible et elle laisse un peu les choses se faire.
C'est vrai que son apprentissage de petite fille, c'est pour ça que c'était important d'en parler, lui permet de traverser beaucoup d'épreuves et d'être vraiment la plus forte de la famille qu'elle reconstitue.
Oui, en effet, c'est la plus forte. Ceci étant, si on va jusqu'au bout du livre, ce n'est pas dit.
C'est vrai. Enfin, là, on peut pas dévoiler la fin du livre. D'autant plus que c'est en même temps un conte fantastique qui mêle le réel et le fantastique. Donc, il y a des moments où on bascule dans l'imaginaire des personnages et d'autres où on est dans la réalité, et puis on ne sait jamais qui ment, qui dit la vérité, qui s'invente des histoires.
Ce qui est faux. Ouais. Et en fait, c'est la grande question, qui est d'ailleurs la grande question, je pense, de la littérature en général, c'est qu'est-ce qui est le plus vrai, ce qu'on imagine ou ce qu'il se passe. Mais il ne se passe pas la même chose pour deux personnes, même si elles vivent la même situation. Donc, où est la réalité, où est la vérité? Est-ce qu'elle est dans notre imagination ou est-ce qu'elle est dans... Où est-elle? C'est un peu la question.
D'une certaine manière, vous posez là la grande question du romanesque.
Absolument.
Aragon disait le mentir vrai, c'est-à-dire que la réalité est mieux dite par la fiction.
Tout à fait. Et d'ailleurs, dans les 10 commandements que Perséphone s'est écrit à elle-même, il y en a un qui dit que le mensonge est très très précieux, qu'il faut savoir mentir parce que c'est la vérité de nos manques. Voilà, la vertu du mensonge, la vertu de l'imagination est immense. Je pense qu'on ne survivrait pas sans le mensonge, sans l'humour et sans l'imagination.
Alors, indépendamment de, du côté fable, du côté métaphore du roman, il y a aussi dans la description que vous faites de la réalité des sans-abri, beaucoup d'émotions, beaucoup d'empathie. Je pense que par ce roman, il faut aussi dire que par la gravité aussi de certains passages du roman, vous modifiez le regard du lecteur. C'est aussi ça le rôle de la littérature, finalement.
Oui, bien sûr. Je pense que tout être humain, au plus misérable de sa condition, a une dignité immense et j'ai beaucoup de respect pour, aussi bien pour celui qui est assis ivre mort que pour celui qui est debout et sobre. Donc moi j'ai vu pas mal de SDF parce que j'ai un petit peu travaillé, enfin j'ai fait des campagnes pour le SAMU social et donc quand il s'agit de gens de la rue j'ai beaucoup d'affection et surtout je pense que je porte un regard sur toute personne, quelle que soit sa condition, égale. Mmh. C'est-à-dire que la dignité, tout le monde y a droit, quoi. Voilà. Je ne sais pas si c'est exactement la réponse à ce que vous disiez, mais c'est. J'espère être affectueuse avec tous les personnages que j'aborde, quoi. Voilà.
Peu importe la question, c'est la réponse qui compte. Véronique Sels, avant de vous demander de lire un extrait du livre que j'ai choisi pour vous, je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle le titre du roman, La Tentation du Pont. C'est paru dans cette nouvelle maison d'édition, Genèse Édition. Et c'est un roman qui ouvre vraiment les yeux sur un monde réel à travers les voies de l'imaginaire que vous exploitez avec beaucoup de style et une très belle phrase. Merci Véronique Sels.
Merci beaucoup à vous. Merci. Voilà.
Les rencontres d'Edmond Morel. Les rencontres d'Edmond Morel.